BW. Économie et développement.
Bonjour. Climat et développement, on en parle encore aujourd'hui. Le changement climatique représente une véritable menace pour les objectifs de développement à long terme, notamment la réduction de la pauvreté. Mais grâce à des politiques d'adaptation appropriées, les pays peuvent réduire les impacts à court terme. Le Bénin accélère son action dans ce sens. Le pays a initié une table ronde internationale sur le financement du climat. Et puis, le Burundi veut promouvoir les investissements dans le secteur minier et favoriser la recherche et l'exploitation des ressources minérales nécessaires à son développement économique. Cette ambition va s'appuyer sur le nouveau code minier en vigueur dans le pays. On en parle dans la seconde partie de ce magazine. Économie et développement, c'est Rodrigue Guezodia au micro. Bienvenue à toutes et à tous. DW. Évolution météorologique imprévisible, aggravation des sécheresses avec des pénuries alimentaires, précipitations et inondations, force croissante des tempêtes tropicales ou encore élévation du niveau de la mer, tous les pays subissent d'une manière ou d'une autre les impacts des changements climatiques. Les groupes de population pauvres sont particulièrement touchés, non seulement à cause de leur situation géographique, mais aussi et surtout parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'adapter ou de se préparer à ces nouvelles réalités climatiques. Des réalités qui entraînent d'énormes pertes et dommages économiques pour les pays. Le Bénin, l'un des pays africains les plus vulnérables au changement climatique, ayant compris que la lutte contre le phénomène requiert des efforts concertés, une collaboration internationale et surtout un financement adéquat et innovant, le Bénin s'est associé donc à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international pour envisager des mécanismes de financement climatique. C'est à la faveur d'une table ronde qui a réuni autour des autorités béninoises, des partenaires financiers et des partenaires au développement, le secteur privé et la société civile. Pour Nabil Chaerli, économiste à la Banque mondiale et spécialiste du climat, cette initiative du Bénin est l'une des solutions pour maintenir l'élan dans la lutte contre le changement climatique. Nabil Chaerli s'appuie aussi sur l'image d'une équipe de football, pour illustrer comment, à l'instar du Bénin, tous les acteurs nationaux et internationaux devront coordonner leurs efforts.
Pour gagner un championnat qui a trois coupes, en fait, ou trois enjeux, le développement, la fragilité et le climat, cette approche nécessite une approche concertée. La croissance, l'action climatique, la fragilité, c'est un sport collectif qui nécessite une intégration entre des parties prenantes. Et donc, on a choisi cette image de l'équipe de football et on a mis une défense avec le climat et la fragilité. On a mis un milieu de terrain qui est représenté par le capital naturel, le capital physique, le capital humain et le développement. Et on a réfléchi à quelle est la meilleure attaque possible pour surmonter ces défis. On a mis quatre joueurs qui sont l'adaptation, l'atténuation, et ces deux joueurs qui vont marquer des buts et vont être aidés par deux autres attaquants qui constituent les institutions et le financement climatique.
Ces dernières années, on a observé au Bénin une croissance continue du financement de l'action climatique, un effort financier porté à grande partie par les banques multilatérales de développement. Mais Marie-Chantal Ouani-Liguira, directrice des opérations de la Banque mondiale, estime que beaucoup reste encore à faire.
Le PIB du Bénin pourrait perdre en moyenne près de 20% d'ici 2050 et qu'un million de personnes pourraient tomber dans l'extrême pauvreté et que d'ici 2070, presque la totalité de son territoire serait soumise à des températures extrêmes, faisant du Bénin l'un des pays qui risque de perdre le plus parmi les pays pour lesquels la Banque mondiale a fait le 6 milliards.
Chantal Ouani-Liguira appelle ainsi les partenaires techniques et financiers à soutenir les réformes liées au changement climatique et à encourager les partenaires privés à investir davantage dans le secteur climatique. Un soutien qui réjouit les autorités béninoises. Romuald Ouadani est le ministre de l'économie et des finances.
Nos pays sont à une étape où il faut investir pour le développement. Et finalement, tous ces accords, c'est arrêter de vous développer quelque part pour faire ça. Parce que la réalité de ce qui se passe, c'est que la plupart de nos économies en Afrique ont besoin de passer par l'industrialisation pour fournir plus d'emplois, de richesses aux populations, pour faire plus d'hôpitaux, créer plus d'écoles, donner plus d'opportunités aux populations. Vous ne pouvez pas être des États qui ne font qu'exporter vos matières premières, puiser les mines et autres et exporter. Ce n'est pas possible. Quand vous essayez d'avoir accès aux technologies, vous transformez vos produits. Les technologies qu'on vous met sur la table, c'est des technologies polluantes. Parce qu'elles ne sont pas chères, elles sont moins chères que les technologies qui permettent d'avoir un développement compatible aux engagements liés au changement climatique. Mais malheureusement, ces technologies sont chères, peu accessibles. Et du coup, vous êtes pris entre, qu'est-ce que je fais? Je prends cette technologie-là parce qu'elle permet au moins de commencer à enclencher ce processus d'industrialisation qui donnera un début de prospérité à la population, où j'attends qu'un jour, ces différents fonds verts dont on entend, mais qu'on ne voit pas la couleur, arrive à se manifester.
Le Bénin a besoin d'environ 10 milliards d'euros d'ici 2030 pour atteindre ses objectifs climatiques, dont la moitié dans les deux prochaines années. Et selon Climate Policy Initiative, l'ensemble des pays africains auront besoin de 2800 milliards de dollars dans la même période pour mettre en œuvre leur engagement en matière d'action climatique.
DW.
La seconde partie de ce magazine nous emmène au Burundi. En 2021, le président burundais avait annulé tous les contrats miniers. Ces contrats, estimait-il, avaient été élaborés au détriment du pays et ne profitaient qu'à des entreprises étrangères. Et depuis quelques mois, le gouvernement a adopté un nouveau code minier en vue de permettre donc au pays de mieux bénéficier de ses richesses minérales. Aussi, le Burundi vient-il de renouveler sa demande d'adhésion à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives pour que l'exploitation minière soit transparente et plus moderne. C'est un reportage d'Antéditeste Niragira, notre correspondant à Bujumbura.
L'or, le nickel ou encore les minéraux associés, le coltan, le tungstène, la cassitérite, la terre rare, ce sont là quelques constituants du potentiel minier burundais sous-exploité, ou plutôt inexploité, jusqu'à nos jours. L'extraction des minéraux y est encore artisanale. Nous sommes ici à Murehe, dans la province de Kirundo, à plus de 150 km au nord de la capitale Bujumbura. À l'instar de la région escarpée de Kabarole, Murehe dispose d'importants gisements de mines, principalement le coltan. Ce minerai de couleur noire ou brun-rouge stratégique notamment pour l'industrie électronique. Dans un tunnel obscur long d'une centaine de mètres, le chef des exploitants, torche à la main, nous présente les richesses minières de la localité.
Ça, c'est la roche-mère où on va rentrer. Ça, ce sont par exemple des minerais à 60%, mais personne ne peut soupçonner la présence d'une quelconque richesse. En passant par là, c'est pareil. Il y a du voltan, une poudre blanche avec du kaolin mélangé avec du coltan. Là où se trouve du coltan, il y a aussi du kaolin qui est à la base de la fabrication des céramiques.
Dans la région est-africaine, seuls la Tanzanie, la République démocratique du Congo et l'Ouganda ont déjà adhéré à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, un processus que le Burundi avait interrompu en cours de route il y a une décennie. Et en 2021, le président burundais a décidé d'annuler le contrat minier. Mais pour quelles raisons? Francis Lohero est candidat malheureux à la présidentielle de 2020 au Burundi. Il fait une analyse nuancée des motivations du chef de l'État 3 ans après l'annulation des contrats.
Les premiers ont fait des contrats qui ont été qualifiés de mauvaise gestion. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train d'être fait? Et la réalité est que 3 ans après, on entend seulement qu'il y a des choses qui sont exportées, mais qui ne sont pas écrites dans le budget de l'État. Ça reste comme ça.
L'exploitation minière attire l'attention de plus d'un dans un pays au sous-sol garni de minerais, mais classé plus pauvre de la planète, avec 87% de la population vivant avec moins de 2 dollars par jour, selon la Banque mondiale. Le nouveau code minier de 2023 pourrait renverser la tendance. L'Association burundaise des consommateurs qui anime le débat sur l'exploitation minière se penche sur la nouvelle réglementation en vigueur. Boazenime, expert en finances publiques, explique les innovations du nouveau code minier, une aubaine, estime-t-il, pour l'économie nationale.
La participation minimale de l'État a été relevée en la faisant passer de 10 à 16%. Et cette participation augmente de 5% à chaque renouvellement tout au long de la vie de la mine. Ça, c'est vraiment une innovation extraordinaire qui montre que l'État doit jouer un grand rôle. Et pour jouer ce rôle, il doit le manifester à travers sa prise de participation, ce qui n'était pas le cas avant.
L'initiative pour la transparence dans les industries extractives, une opportunité pour le Burundi d'accentuer la gouvernance publique des entreprises d'extraction. Elle permet aussi de sensibiliser la population et favoriser le débat public face au secteur extractif et la redistribution des revenus qui en sont issus. Et que gagnerait concrètement le Burundi en adhérant à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives? C'est la crédibilité avant tout vis-à-vis des partenaires financiers, selon Gabriel Ufili, l'activiste de la bonne gouvernance et président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au Burundi, précise.
Parmi les points de financement des puissances qui appuient au Burundi, qui sont dans cette initiative, souvent ils ne financent pas les pays quand un pays ne s'engage pas à promouvoir la transparence dans les industries extractives.
L'exploitation minière représente la principale source de revenus des populations dans les zones minières. Le pays s'est engagé à transformer ses systèmes de gestion des ressources naturelles. La croissance économique devrait atteindre 3,8% cette année au Burundi. À la base, la reprise graduelle des investissements dans le secteur minier, des investissements publics et stratégiques, ont édité Stenira Gira à Bujumbura pour la Deutsche Welle.
Merci Antédité Stenira Gira pour ce reportage. Merci à vous aussi d'avoir suivi ce numéro d'économie et développement. À réécouter ou à télécharger sur notre site www.dw.com/français. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien.